pour enregistrer après enregistrer comme ça. Bonjour à tous, bonjour à tous. Je suis vraiment content d'être parmi vous ce matin. Je vous salue, vous qui êtes présents dans la salle. Je salue aussi ceux qui nous suivent à distance. Je suis vraiment reconnaissant de pouvoir venir pour la première fois dans votre église, dans cette communauté. Donc, pour me présenter rapidement, je m'appelle Habib. Je suis membre de l'église évangélique de la Bonne Nouvelle de Besançon. Je suis originaire aussi du Tchad, un pays d'Afrique centrale. Et ça va faire depuis 7 ans que je vis à Besançon. Je travaille dans le domaine de... Je suis entrepreneur dans le domaine de la formation et dans le domaine du numérique. Je suis spécialisé un peu dans tout ce qui est Internet et réseaux sociaux. Et je suis vraiment heureux d'être avec vous ce matin. Et je prie vraiment que ce temps, ça soit un temps béni, un temps où on puisse être béni par la parole de Dieu. Je vais prier encore pour remettre ce moment et vraiment demander au Seigneur de bénir ce temps, que sa parole puisse nous parler à chacun. Seigneur mon Dieu, merci pour la grâce de pouvoir me retrouver ce matin avec mes frères et sœurs de l'église de Lons-le-Saunier, Seigneur. Merci pour la liberté que tu nous donnes, Seigneur, à tous de pouvoir nous approcher ensemble de toi. Père Céleste, je te prie et nous voulons te demander, Seigneur, avant toute chose, de rendre nos cœurs et nos pensées, Seigneur, réceptifs à ta parole. Seigneur, nous te demandons de nous parler par ton Esprit Saint au moyen de ta parole. Seigneur, merci de bénir ce temps, merci de te glorifier, Seigneur, au travers de ce moment. Au nom de Jésus. Amen.
Amen.
On peut passer à la dépression. Donc on a un peu... c'est pas grave. Donc, aujourd'hui, on va voir ensemble la première partie de l'évangile de Jean. On va voir la première partie de l'évangile de Jean au chapitre 9. Et ce chapitre 9, en fait, nous raconte le récit de la guérison miraculeuse par Jésus d'un homme aveugle de naissance. Et donc le chapitre 9 est très riche en enseignements. On ne va pas tout voir aujourd'hui. Mais je vous encourage, après, dans la semaine, à prendre le temps à relire ce chapitre tranquillement. Et en repensant un peu à ce dont nous aurons discuté ce matin, et je suis sûr que le Seigneur va encore vous bénir et vous révéler plein de choses dans sa parole. Aujourd'hui, pour ce message, nous allons nous intéresser au chapitre 9, du verset 1 à 12. Et je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles, si vous avez vos Bibles, et je vais effectuer la lecture du chapitre 9, du verset 1 à 12. Donc j'effectue la lecture. Lecture de Jean chapitre 9, versets 1 à 12. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question: Maître, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit: « Va te laver au bassin de Siloé ». Nom qui signifie « envoyé ». Il y alla donc, se lava et revint voyant clair. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant disaient « N'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient « C'est lui ». D'autres disaient « Non, mais il lui ressemble ». Mais lui affirmait « C'est bien moi ». Ils lui dirent donc « Comment donc tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, l'a appliqué sur mes yeux et m'a dit, « Va au bassin de Siloé et lave-toi. » J'y suis donc allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Ils lui dirent, « Où est cet homme ? Il répondit : Je ne sais pas. On peut passer à la diapositive. Aujourd'hui, on va parler de la lumière. Qu'est-ce que c'est ? À quoi ça sert ? La lumière, c'est une source d'énergie. C'est une source d'énergie qui permet d'éclairer. Et en journée, il y a la lumière naturelle du jour, du soleil qui nous éclaire. Et en soirée, lorsqu'on est chez soi, à la maison, on a des lampes ou des torches qui nous permettent d'éclairer la maison ou même d'éclairer un chemin. La lumière peut avoir différentes fonctions. Donc, elle permet de mettre en lumière quelque chose. Elle chasse l'obscurité. Et la lumière brille, elle attire aussi notre attention. Et c'est là que commence mon message. Ce message qui concerne la première partie du chapitre 9 de l'évangile de Jean, des versets 1 à 12, et qui s'intitule « Jésus, la lumière du monde qui agit dans notre vie ». Pour vous situer un peu le contexte, donc ce message est le premier message d'une série de trois messages qui couvrent l'ensemble du chapitre 9 de l'évangile de Jean. Mais ce matin, on verra ce premier message et l'année prochaine, si Dieu le permet, je reviendrai pour vous partager le deuxième et le troisième message de la série. Donc ce message s'intitule « Jésus, la lumière du monde qui agit dans notre vie ». Et dans le passage que l'on vient de lire, on va s'intéresser à deux aspects. Le premier point, c'est que Jésus se sert des souffrances et des situations difficiles dans notre vie pour manifester les œuvres de Dieu. Le deuxième point que l'on va voir, c'est raconter à notre entourage les œuvres de Dieu dans notre vie, c'est rendre témoignage de Jésus. Mais on va d'abord se focaliser sur le premier point. Jésus se sert des souffrances et des situations difficiles dans notre vie pour manifester les œuvres de Dieu. On va relire ensemble rapidement le passage des versets 1 à 5. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question : Maître, qui a péché ? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ? Jésus répondit : Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. La première question que l'on va se poser et auquel on va réfléchir au travers de ce message, c'est la maladie et la souffrance résultent-elles toujours d'un péché en particulier ? Et Jésus reprend ses disciples et leur enseigne la vérité. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Qu'est-ce qui se passe dans cette scène, dans cette première scène ? On a Jésus qui est avec ses disciples en train de marcher dans la rue, et en passant, Jésus aperçoit en chemin un homme mendiant qui est aveugle de naissance. Et à la vue de cet homme aveugle de naissance, les disciples, ils entament un dialogue avec Jésus. Ils commencent à discuter avec Jésus et ils interrogent Jésus. Ils cherchent à comprendre quelle est la cause de cette maladie, de ce handicap, de cet état d'aveuglement de cet homme depuis sa naissance. Et ils demandent donc à Jésus, mais qui a péché pour que cet homme soit né aveugle ? Est-ce que c'est à cause de son propre péché ou est-ce que c'est à cause du péché de ses parents ? Dans leur raisonnement, dans leur manière de penser, les disciples considéraient qu'il y a quelqu'un qui a commis une faute, qu'il y a quelqu'un qui a offensé Dieu, quelqu'un qui a péché contre Dieu. Et à cause de cela est survenue cette maladie, le fait que cet homme soit né aveugle. Et en se basant sur ce raisonnement, les disciples interrogent Jésus pour savoir qui est responsable de ce mal. Est-ce que c'est cet homme ou bien ce sont ses parents ? Ce raisonnement qu'avaient les disciples, mais aussi qu'avaient les religieux à l'époque, il est faux. C'est un faux raisonnement. Et Jésus va corriger ses disciples. Et il va leur enseigner la vérité sur la raison de l'état de cet homme, né aveugle. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu
soit révélé en lui. Cet enseignement que Jésus donne à ses disciples, c'est que la maladie, le handicap ou la souffrance ne résulte pas toujours de la faute de quelqu'un en particulier. Et en fait, ce passage nous interpelle sur l'importance de savoir faire la différence entre les conséquences du péché en général et les conséquences d'une faute commise par quelqu'un en particulier. Comme beaucoup de gens à l'époque de Jésus, aujourd'hui encore, beaucoup de gens cherchent à comprendre le pourquoi de la souffrance, le pourquoi de la maladie. La parole de Dieu apporte des réponses à ces questionnements. La parole de Dieu nous explique, dans le livre de la Genèse, que la source originelle du mal, de la souffrance dans le monde, c'est le péché. Du fait qu'Adam et Ève aient péché contre Dieu en désobéissant à ses commandements, le péché est entré dans le monde avec pour conséquence générale, d'une part, le fait que tous les êtres humains sont pécheurs aux yeux de Dieu. Tous les êtres humains sur cette terre sont pécheurs aux yeux de Dieu. Et d'autre part, le péché en entrant dans le monde a entraîné diverses conséquences dans le monde. La mort, la maladie, la souffrance, les guerres, les injustices, le mal qui règne dans le monde. Il suffit de regarder les médias. La parole de Dieu déclare dans Romains 3, 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Romains 3, versets 9 à 12, l'apôtre Paul dit « Que dire donc ? Sommes-nous supérieurs aux autres ? Pas du tout. En effet, nous avons déjà prouvé que juifs et non-juifs sont tous sous la domination du péché. Comme cela est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent. » Aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés, ensemble ils se sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Romains 6, 23 dit, « En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, en Jésus-Christ notre Seigneur. » C'est pour cela que Jésus est venu dans le monde. C'est pour cela que Jésus, le Fils de Dieu, a accepté de souffrir, et de prendre sur lui nos péchés, ainsi que ceux du monde entier, en mourant à la croix. La colère de Dieu s'est abattue sur lui pour que vous et moi, nous puissions avoir la paix et que nous soyons libérés de toute condamnation liée au péché. Jésus est mort sur la croix, puis le troisième jour, il est ressuscité, de sorte que tous ceux et celles qui placent leur foi en lui reçoivent la vie éternelle. Le premier enseignement de ce passage, c'est vraiment un appel à avoir confiance en Jésus. Un appel à lui faire confiance, à avoir foi en lui. On va revenir à notre dialogue. On va revenir à notre dialogue entre Jésus et ses disciples. Donc lorsque Jésus leur répond que si cet homme est né aveugle, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais que c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui, Jésus réfute le faux raisonnement qu'avaient les disciples mais aussi les religieux de l'époque. Ce n'est pas parce que quelqu'un souffre d'une maladie ou d'un handicap que cela signifie que cette personne a forcément commis un péché en particulier. À l'époque, les Juifs voyaient dans la maladie la conséquence directe d'un péché par celui qui en était frappé. Malheureusement, aujourd'hui encore, dans certains milieux qui se disent chrétiens, il y a toujours ce faux raisonnement. Et la réponse du Seigneur, c'est qu'il montre clairement que la maladie et la souffrance ne sont pas toujours la conséquence directe d'un péché commis par quelqu'un en particulier. En effet, le livre de Job, dans l'Ancien Testament, a été écrit en partie aussi pour refuter ce faux raisonnement. Ce n'est pas parce que quelqu'un souffre d'une maladie ou d'un handicap que cela signifie que cette personne ou ses parents ont commis un péché en particulier. Nous avons l'exemple de Job dans l'Ancien Testament, ou même de l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament. Ils ont tous les deux souffert de maladies et de douleurs physiques. Non pas parce qu'ils ont commis des péchés, mais Dieu a permis cela pour que ses œuvres et sa gloire soient révélées en eux. En résumé, dans son dialogue avec ses disciples, d'abord Jésus réfute leur faux raisonnement, et ensuite il leur enseigne la vérité. C'est afin que les œuvres de Dieu soit révélé en lui. Dans le cas de cet homme mendiant et aveugle naissant, Jésus se sert des souffrances de cet homme pour glorifier Dieu. Mais alors, on peut se poser la question, mais c'est quoi une œuvre de Dieu ? C'est quoi une œuvre de Dieu ? Et une œuvre, en fait, c'est le résultat d'une action ou d'une intervention effectuée par Dieu. Et la Bible nous donne plusieurs exemples d'œuvres réalisées par Dieu. D'abord, dans le psaume 146, versets 6 à 8, Dieu, il a fait le ciel et la terre, et tout, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il protège éternellement la vérité, il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés, l'Éternel délivre les prisonniers, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés, l'Éternel aime les justes. Et dans le Nouveau Testament, nous avons également plein d'œuvres de Dieu accomplies à travers Jésus et décrites dans les évangiles. La guérison des malades, Jésus servait, il était au service des autres et il faisait du bien aux autres. La multiplication des pains pour nourrir des foules, il apportait son soutien aux plus faibles, la délivrance de personnes possédées par des démons, Jésus qui réussissait à calmer une tempête par le son de sa voix, la mort de Jésus à la croix, puis sa résurrection le troisième jour. Tout ça, ce sont les œuvres de Dieu. Et dans nos vies à chacun, chaque jour, Dieu accomplit des œuvres. Je vais vous partager un témoignage pour illustrer cela. Vous avez peut-être entendu parler de Nick Vujicic. C'est un homme qui est né sans bras ni jambes. Pourquoi suis-je né ainsi ? C'est la question que se posait Nick lorsqu'il était jeune. Pourquoi est-ce que je suis né ainsi ? Et il a aussi posé cette question à Dieu. Et il affirme que Dieu lui a clairement répondu après avoir lu le passage de ce Jean chapitre 9. Je suis convaincu que Dieu parle par sa parole. Dieu parle à nos cœurs en fonction de ce que l'on vit. Et dans ce récit, personne ne savait pourquoi cet homme était né aveugle. Nick aussi ne savait pas pourquoi il était né sans bras ni jambes. Mais Jésus explique que cet homme est né aveugle afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Et Nick un jour s'est dit, Dieu, si tu as eu un plan pour cet homme né aveugle dans ce chapitre 9 de l'évangile de Jean, c'est que tu as aussi un plan pour moi. Et Nick a alors décidé de placer sa confiance en Dieu. Et ça a été le début d'une relation personnelle avec Jésus. Suite à sa conversion, Nick a commencé des groupes de jeunes de par le monde entier et des églises partout à travers le monde l'ont invité. Ils l'ont invité pour qu'il vienne partager le témoignage de ce que Dieu a fait dans sa vie. Donc Nick a voyagé aux quatre coins du monde pour partager son témoignage à des milliers de personnes. Et à travers les différentes rencontres qu'il a faites lors de ses voyages, Nick s'est rendu compte en fait que Dieu se servait de lui pour faire du bien aux gens, pour encourager les gens. Dieu se servait de lui pour manifester l'amour de Dieu en Jésus-Christ à toutes les personnes qu'il rencontrait. Et le résultat de l'œuvre de Dieu dans la vie de Nick, c'est que Dieu s'est servi d'un homme qui est né sans bras ni jambes pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile à des millions de personnes à travers le monde. Nous sommes tous uniques. Dieu nous a tous fait uniques. Il nous a tous fait à son image. Et Dieu nous aime. Nous avons tous, chacun, de la valeur à ses yeux. C'est une grâce de pouvoir se rassembler, de pouvoir écouter sa parole, de pouvoir même connaître Dieu. Et Dieu, il veut manifester ses œuvres dans nos vies. Dieu a conscience de nos faiblesses, de nos manquements. Mais il sait pourquoi il nous a fait tels que nous sommes. Et il sait pourquoi il s'est révélé à nous. Hop. On va revenir un peu. On est moins, mais elle est très vite. Voilà. Nick, aujourd'hui, est marié. Qui aurait pu penser qu'un homme né sans bras ni jambes pourrait être père de deux garçons et deux filles? On rend gloire à Dieu pour ses œuvres dans la vie de Nick. Jésus, la lumière du monde qui agit dans notre vie. Jésus, la lumière du monde, est venu sur terre pour révéler les œuvres de Dieu. Il est venu révéler ses œuvres dans nos vies, afin qu'en voyant ses œuvres, les êtres humains se tournent vers Jésus-Christ et placent leur foi en lui. Dans la suite de son dialogue avec ses disciples, Jésus leur explique que tant qu'il fait jour, c'est-à-dire la période où il y a de la lumière, lui, il doit accomplir les œuvres que Dieu le Père l'a envoyé faire sur terre. Et Jésus les prévient que la nuit approche. La nuit, c'est la période lorsqu'il n'y a plus de lumière et pendant laquelle personne ne peut travailler. En fait, Jésus explique qu'il faut accomplir les œuvres de Dieu pendant qu'il fait jour. Or, Jésus est la lumière du monde. Et c'est vraiment un appel à tirer profit de sa présence pour agir, pour faire le bien autour de nous. Jésus dira plus loin dans Jean chapitre 12, versets 35 à 36, Jésus leur dit « La lumière est encore pour un peu de temps parmi vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Car celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en elle, afin de devenir des enfants de lumière. » Après avoir dit cela, Jésus s'en alla et se cacha loin d'eux. En avertissant la foule qu'il sera parmi eux pendant un peu de temps seulement, Jésus invite ses auditeurs et il nous invite, nous aussi, à tirer profit de sa présence. Si nous avons accepté Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, si nous l'avons reçu dans notre cœur, Jésus vit en nous par son Esprit Saint, l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Et pareil à une lumière qui brille dans un endroit obscur, Jésus, il nous montre le chemin à suivre. Et si nous marchons dans la lumière, nous devenons nous aussi des enfants de lumière qui révèlent la vérité et qui montrent le chemin à Dieu par notre comportement et par nos paroles, dans nos familles, auprès de nos collègues, à l'école, dans notre voisinage, à l'église, même auprès de la boulangère chez qui on va acheter notre pain. Il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ seul. Et le jour où nous avons fait le choix de placer notre foi en Dieu, Dieu, il nous a accordé la vie éternelle. Et il est venu habiter en nous par son Saint-Esprit. Et Jésus nous appelle à tirer profit de sa présence pour agir. L'apôtre Paul disait aux Galates, au chapitre 6, versets 9 à 10, « Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et en particulier envers nos proches dans la foi. Notre foi en Jésus doit nous conduire à faire des bonnes œuvres, à faire le bien autour de nous. Parce que c'est au travers de notre comportement, c'est au travers de nos paroles que nous rendons témoignage de l'amour de Dieu dans notre vie. C'est vraiment un appel à tirer profit de la présence de Jésus pour agir et faire le bien, pour manifester la compassion et l'amour. Encore une fois, dans nos familles, auprès de nos amis, auprès des personnes que nous côtoyons au travail, auprès de personnes que nous côtoyons dans notre quartier, nos paroles et notre comportement témoignent de l'amour de Dieu. Jésus est la lumière du monde et cet homme est né aveugle pour que les œuvres de Dieu soient révélées en lui, afin qu'en voyant ses œuvres, les êtres humains se tournent vers la lumière du monde, à savoir Jésus-Christ, et choisissent personnellement de placer leur foi en lui. On vit dans un monde où il y a beaucoup de violence, il y a des guerres, il y a de la haine, il y a de la jalousie, il y a la méchanceté. On vit dans un monde où règnent les ténèbres à cause du péché et du diable. C'est une réalité. Mais en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous n'avons pas à craindre l'obscurité envahissante du monde. Mais nous devons agir par nos paroles et par notre comportement pour rayonner la lumière de Christ. Dieu, il est la source de la vie. Et par sa lumière, nous voyons la lumière. Et en tant que le disciple de Jésus, nous avons en nous la lumière de la vie. Vous avez la lumière de la vie en vous, si vous avez reçu Christ. Et c'est cette lumière qui doit luire parmi les autres. Jésus, la lumière du monde qui agit dans votre vie qui agit dans ma vie. On va s'intéresser au deuxième aspect. Raconter à notre entourage les œuvres de Dieu dans notre vie, c'est rendre témoignage de Jésus. Jésus, il a guéri miraculeusement l'homme aveugle. Et on va relire le passage cette fois-ci de versets 8 à 12. Prochain verset, prochaine diapo. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant, là on parle de l'aveugle qui a été guéri, ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant disaient, n'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Mais lui affirmait, c'est bien moi. Ils lui dirent donc, comment donc tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, l'a appliqué sur mes yeux, et m'a dit, va au bassin de Siloé et lave-toi. J'y suis donc allé. Je me suis lavé et j'ai pu voir. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe dans cette scène? On a un autre homme qui a été guéri. Suite à sa guérison miraculeuse, il s'ensuit une discussion entre cet homme mendiant guéri et son entourage. Donc on a un dialogue entre le mendiant qui a été guéri et un public qui est composé de deux groupes de personnes. Parmi les personnes qui l'interroge, il y a ses voisins et il y a les personnes qu'il avait vues mendier auparavant dans la rue. Et ces personnes qui l'ont connu lorsqu'il était aveugle et mendiant, ils sont étonnés et ils ont du mal à le reconnaître avec les yeux ouverts. Ils s'interrogent d'abord sur son identité et chacun émet sa propre hypothèse. C'est lui, c'est pas lui, ils ne savent pas. Et face à ce questionnement sur son identité, l'intéressé lui-même répond que c'est bien lui l'homme qu'ils ont connu auparavant, aveugle et mendiant, et qu'aujourd'hui, il a les yeux ouverts. Ensuite, il s'interroge sur ce qui s'est passé dans sa vie. Certains cherchent à savoir ce qui lui est arrivé. Mais comment tes yeux se sont ouverts? Et il leur a répondu en partageant simplement son témoignage de guérison. Il leur a raconté simplement ce que Jésus a fait dans sa vie. Il n'a pas fait de grands discours. Il a décrit simplement les faits, l'œuvre de Dieu dans sa vie. Lorsque Jésus réalise une œuvre dans la vie de quelqu'un, dans votre vie ou dans ma vie, il y a un changement qui s'opère dans la vie de cette personne. Et cela transparaît dans sa manière d'être et de se comporter. Lorsqu'on vient à Christ, l'Esprit de Dieu travaille notre cœur, notre caractère. Il nous transforme et nous amène à porter le fruit de l'Esprit. On commence à avoir de l'amour. On commence à moins se mettre en colère comme auparavant. On commence à être doux. On commence à être patient. On commence à être bienveillant. On commence à être généreux à donner. On commence à avoir foi et confiance en Dieu. Et c'est un processus qui se perdure tout au long de notre vie. L'Esprit de Dieu transforme notre cœur et notre caractère. Et il y a un changement dans nos vies. Et les gens autour de nous, nos parents, nos amis, nos voisins, constatent ce changement. Ils disent, il y a quelque chose qui a changé chez lui, il y a quelque chose qui a changé chez elle. Elle n'est pas comme avant, elle ne réagit plus comme avant. Qu'est-ce que c'est? Et ce changement, il peut être visible extérieurement, et notre entourage arrive à le percevoir, même les non-croyants. Et souvent, les premières personnes à observer ce changement, ce sont nos proches. Ce sont les gens qui nous entourent. Et justement, ce changement dans notre vie, dans notre manière d'être, les interpelle et les interroge. Et c'est là qu'on a l'opportunité de rendre témoignage de Jésus. De leur dire, mais qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Voilà ce que Jésus a fait. Voilà ce que Jésus a fait dans ma vie. Voilà ce que Jésus m'a aidé à surmonter. Voici les difficultés et souffrances que j'avais. Et voilà comment Jésus est venu œuvrer en moi. Voilà comment j'ai appris à lui faire confiance. Je ne suis pas parfait, j'ai encore des défauts. Mais Jésus travaille dans mon cœur et dans mon caractère pour que je lui ressemble. Ce passage nous révèle deux manières de témoigner qui sont complémentaires. Le témoignage par notre comportement Les gens autour de nous nous observent. Les gens autour de vous vous observent. À la maison, au boulot, à l'école, les gens vous observent, ils observent comment est-ce que vous réagissez, comment est-ce que vous vous comportez. Les membres de nos familles, nos conjoints, nos clients, nos élèves, nos enfants, ils nous observent. Le témoignage par nos paroles, et en nous observant, ces personnes qui ne connaissent pas Dieu peuvent commencer à se poser des questions. Des questions sur les œuvres de Dieu dans notre vie. Et là, on peut témoigner en racontant simplement ce que Dieu a fait. Encore une fois, nous n'avons pas besoin d'avoir fait des longues études théologiques pour dire simplement ce que Jésus a fait dans notre vie. On décrit simplement les faits. Avec humilité, avec vérité. Et c'est Dieu qui agit après dans le cœur des personnes qui sont autour de nous. Notre témoignage des œuvres de Dieu dans notre vie pointe vers Jésus. Et la lumière du monde, et c'est afin que les êtres humains, en voyant ces œuvres dans notre vie, rendent gloire à Dieu. Et placent et choisissent personnellement de placer leur foi en lui. Jésus, la lumière du monde qui agit dans votre vie et qui agit dans la mienne. En conclusion, juste trois principaux points à retenir en conclusion de ce message. Ce message, c'est vraiment un appel à croire, un appel à placer sa confiance en Jésus. Si vous croyez au Seigneur Jésus et à la valeur de son sacrifice, vous recevrez le pardon de vos péchés et la vie éternelle. Ce message, c'est un appel à agir, un appel à faire du bien. La lumière de Christ habite en nous, que notre foi nous conduise à agir pour manifester l'amour envers les autres. Que nous puissions avoir un regard de compassion et d'amour, même envers ceux qui nous méprisent. Agissons pour faire de bonnes œuvres, pour faire le bien. Et l'Esprit de Dieu rayonnera la lumière de Christ au travers de nous, auprès de nos proches, auprès de personnes pour qui on prie depuis longtemps et on ne voit pas forcément de changement. Notre attitude, notre comportement, le Seigneur va s'en servir pour agir dans la vie de ces personnes. Notre entourage nous observe. Et c'est un appel à témoigner. Saisir les opportunités que Dieu présente pour nous, pour témoigner l'amour de Dieu autour de nous. Je vais terminer par la prière. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce dans notre vie. Merci parce que tu es un Dieu plein de compassion, Seigneur. Merci de ce que tu t'es révélé à nous alors que nous étions pécheurs loin de toi. Tu es venu à nous, Seigneur. Tu nous as sauvés. Tu as ouvert nos yeux pour que nous puissions te voir. Nous puissions connaître l'amour de Dieu et son pardon. Merci, Seigneur, pour ton amour. Seigneur, je prie pour moi et pour mes frères et sœurs, ici présents et ceux qui sont à distance. Que tu nous fortifies, Seigneur, pour que nous sachions manifester ton amour par nos paroles et par nos comportements. Seigneur, donne-nous de pouvoir agir avec amour. Donne-nous de pouvoir faire du bien, même à ceux qui nous méprisent. Donne-nous, Seigneur, de refléter qui tu es par nos paroles et notre comportement. Seigneur, nous avons besoin de ta force, de ta grâce. Nous savons que ce n'est pas nous qui convertissons, mais que c'est toi qui agis dans le cœur des êtres humains. Transforme-nous pour que nous puissions rayonner de ta lumière partout où tu nous envoies et partout où tu nous places. Je te prie de bénir chacun de mes frères et sœurs ici présents et ceux qui sont à distance. Merci mon Dieu pour ton soutien, ta bonté et ta fidélité dans notre vie. Au nom de Jésus, Amen.